Donc, grand B, martyr et passion. Alors, petit A, le martyr de Polycarpe de Smyrne. Donc, vous voyez, on fait un retour en arrière pour ce genre littéraire, puisque Polycarpe, on l'avait vu au début. Alors, ce Polycarpe, bah, on ne sait pas trop. En fait, en tout cas, c'est le début du deuxième siècle. Hein. Milieu... Début du deuxième siècle. Alors, c'est une lettre adressée à une communauté chrétienne et à travers elle à d'autres communautés. Hein. Ces lettres circulaient de communauté en communauté. Elle commence par une exhortation à suivre le Christ et à endurer le martyre. Puis, on nous décrit l'arrestation. Polycarpe reçoit fort civilement la troupe venue l'arrêter, il propose de prendre le thé, voilà. Alors, une fois de plus, le proconsul cherche à le faire abjurer pour l'épargner, puis le somme de sacrifier, mais Polycarpe répond « Christianus sum hein, », exactement comme on l'a vu tout à l'heure avec ta... Cyprien ou Justin. Et alors, il propose à son interlocuteur de l'instruire dans la foi chrétienne. Donc, il fait du catéchisme au proconsul venu l'arrêter. Et sur son refus et ses menaces, Polycarpe le menace, lui, du châtiment éternel. Et mis sur le bûcher, les flammes, comme des voiles de bateau, s'écartent, le faisant cuire comme un pain de Dieu, dira un témoin du martyr. Et alors, un bourreau va le poignarder pour abréger les souffrances. Et à l'instigation des Juifs, son corps est incinéré, de manière à éviter la vénération du martyr, mais néanmoins les restes, il y a des restes qui seront vénérés. Et la lettre s'achève par une exhortation à l'imitation. Alors on voit apparaître quelques éléments merveilleux ainsi qu'une intention théologique. Donc, qui va distinguer ce récit des actes. Ce n'est plus simplement un récit de témoins oculaires, mais c'est un récit qui va être interprété théologiquement. Alors, voilà, comme pour le vieillard Mattathias dans le livre des Maccabées, vous vous souvenez, on lui dit « mange du porc », mais en douce, on te donnera du bœuf, quoi. Donc finalement, tu n'auras pas mangé de porc, mais lui, il refuse évidemment d'entrer dans ce jeu. Donc, comme pour le vieillard Mattathias, on cherche à le sauver en lui proposant un compromis, juste maudire le Christ. Et c'est là qu'il répond, voilà 86 ans que je le sers, il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je outrager mon roi et mon sauveur ? Oui, alors justement, on ne sait pas si du coup ça voulait dire qu'il était alors âgé de 86 ans ou s'il était baptisé depuis 86 ans. Et,
il n'était pas jeune.
En tout cas, il n'était pas jeune. Hein. Polycarpe de Smyrne, donc, était disciple de Saint Jean, qui visiblement était aussi âgé, et qui a été donc le maître de Saint-Irénée de Lyon.
Polycarpe.
Oui, et Saint-Irénée qui a été, semble-t-il, à l'époque, le témoin du martyr de Potin, Blandine et compagnie à Lyon. Et c'est lui qui aurait porté les lettres qu'on va lire après au pape de l'époque. Alors, je vous lis quelques passages des actes du martyr, hein, parce que c'est vraiment une longue lettre... avec à l'intérieur donc le récit du martyr. Le diable Le diable... est-ce que ça marche ? Oui. Le diable déploya toutes sortes de ruses. Grâce à Dieu, il n'en vainquit aucun. Donc des condamnés. Hein, des... L'un des plus résolus, Germanicus, fortifiait les plus faibles par son intrépidité. Son combat avec les bêtes fut admirable. Le proconsul essayait de le convaincre. Il le suppliait d'avoir pitié de sa jeunesse, mais lui, impatient d'en finir avec ce monde d'injustice et de cruauté, provoqua le fauve qui se jeta sur lui. Alors la foule, déchaînée par le courage des chrétiens et par la foi de cette race ardente, hurla « À mort les impies, qu'on cherche Polycarpe !» Vous vous souvenez qu'il avait été dénoncé, hein. C'était à l'époque de Trajan, donc c'est l'époque où on ne condamne les chrétiens que s'ils sont dénoncés et que souvent les proconsuls se retrouvent obligés de condamner des gens dont ils pensent qu'ils sont innocents en fait. Un seul défaillit à la vue des bêtes. C'était un Phrygien arrivé depuis peu de son pays. Il se nommait Quintus. Il s'était de lui-même dénoncé, entraînant avec lui quelques compagnons. Le proconsul, à force d'insister, réussit à le faire abjurer et il sacrifia. Aussi n'y a-t-il pas lieu de féliciter ceux qui vont au-devant du martyr. Un tel zèle n'est pas évangélique. Vous voyez, l'idée chrétienne, c'est qu'on n'a pas à rechercher le martyr, mais s'il nous tombe dessus, on n'a pas à le fuir non plus. Mais on n'a pas à provoquer les autorités. Et il prend l'exemple de celui qui a voulu provoquer les autorités, puis qui a défailli. Du stade montait une énorme rumeur et nul ne pouvait s'y faire entendre. Quand Polycarpe en franchit les portes, une voix retentit du ciel. « Courage, Polycarpe, et sois un homme !» Vie resto, hein, on imagine. Nul ne vit qui avait parlé, mais ceux des nôtres qui étaient présents entendirent la voix. On fit entrer Polycarpe. Quand la foule apprit qu'il avait été arrêté, les clameurs redoublèrent. Le proconsul le fit comparaître devant lui et lui demanda s'il était Polycarpe. « Oui, » répondit celui-ci. Alors il essaya de le faire abjurer. « Respecte ton âge, » disait-il. Suivaient toutes les paroles que l'on tient en pareil cas. « Jure par la fortune de César, rétracte-toi, crie, à mort les impies. » Alors Polycarpe jeta un œil sombre sur cette populace de païens massée dans le stade et pointa sa main vers elle. Puis il soupira. Et les yeux levés au ciel, il dit « Abat les impies !» Le proconsul le pressait de plus belle « Jure donc, et je te libère, maudit le Christ !» Polycarpe répondit « Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, en feignant d'ignorer qui je suis, écoute-le donc une bonne fois. Je suis chrétien. Voilà 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur ? Si le christianisme t'intéresse, donne-toi un jour pour m'entendre. » Le proconsul lui dit « Essaie de convaincre le peuple. » Mais Polycarpe répliqua « Avec toi, je veux bien m'expliquer. Dieu nous demande de respecter comme elle le mérite les autorités et les hautes fonctions qu'il a lui-même instituées du moment que cela ne nous porte pas préjudice. Mais ces gens-là ont trop peu de dignité pour que je défende ma foi devant eux. » Le proconsul reprit « J'ai des fauves. Je t'y ferai jeter si tu ne changes pas d'opinion. Fais-les venir. » Quand nous changeons, nous, ce n'est pas pour aller du bien au mal. Nous ne consentons à changer que pour devenir meilleurs. Le magistrat s'irritait. Je t'envoie au bûcher si tu ne crains pas les fauves. Apostasie donc. Polycarpe répliqua. Tu me menaces d'un feu qui brûle une heure, puis s'éteint rapidement. Tu ignores donc le feu du jugement à venir et du châtiment éternel gardé pour les impies. Mais pourquoi tardes-tu ? Va, donne tes ordres. Telles furent ses paroles et bien d'autres encore. Il rayonnait de courage et de joie, et la grâce inondait sa face. Il ne s'était pas laissé démonter par cette confrontation, c'était au contraire le proconsul qu'elle plongeait dans le désarroi. Cependant, ce dernier envoya son héros au milieu du stade pour claironner trois fois. Polycarpe a avoué qu'il est chrétien. La déclaration du héros mit en fureur toute la foule des païens et des juifs qui résidaient à Smyrne. Les cris éclatèrent. C'est lui le maître de l'Asie, le père des chrétiens, le fossoyeur de nos dieux, c'est lui qui incite les foules à ne plus sacrifier ni adorer. Alors, souvenez-vous aussi qu'il n'y a pas que la bêtise des gens, hein, il y a aussi les intérêts financiers. Hein. Vous souvenez de l'émeute à Éphèse de saint Paul, hein, les idoles d'argent, la Vénus d'Éphèse, là, vous avez un exemple là, dans les musées du Vatican, une espèce de grosse bonne femme qui a une centaine de seins qui pendent, parce que c'est comment dire, le symbole de la fécondité. Eh ben, on faisait des petites statuettes en argent qu'on vendait, etc. Et en fait, il y avait toute la corporation des orfèvres vivait de ce commerce, et puis plein d'autres vivaient de, et puis tous les bouchers qui vivaient des sacrifices de bêtes, etc., etc. Donc en fait, la proclamation du christianisme dérangeait les affaires d'un bon nombre de corporations qui avaient donc intérêt à ce que le christianisme se développe pas. C'est comme si on disait aujourd'hui que la Vierge n'est pas apparue à Lourdes. Ça embêterait beaucoup les hôteliers, les fabricants de chapelets. Ça serait très ennuyeux. Ils feraient des émeutes. Ils iraient voir le sous-préfet. Bon. Alors, au milieu de leurs hurlements, donc les hurlements de tous ces smyrniotes, ils demandaient à l'asiarque Philippe de lâcher un lion sur Polycarpe. Mais il objecta qu'il n'en avait plus le droit parce que les combats de fauves étaient clos. Alors d'une voix, ils réclamèrent que Polycarpe périt par le feu. Il fallait en effet que s'accomplît la vision qui lui avait montré son oreiller en flammes tandis qu'il priait et qui lui avait arraché devant ses amis ce mot prophétique « Il faut que je sois brûlé vif ». Ça, c'est une vision qu'il avait eue avant d'être arrêté. Les événements se précipitèrent. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la foule se rua dans les ateliers et dans les bains pour ramasser du bois et des fagots. Les Juifs s'acquittaient de la besogne avec leurs ailes habituelles. Quand le bûcher fut prêt, le martyr retira lui-même tous ses vêtements, il détacha sa ceinture, puis commença à se déchausser, geste dont les fidèles le dispensaient toujours. Dans l'impatience où ils étaient de toucher son corps, tous se précipitaient pour l'aider. Bien avant son martyre, la sainteté de sa conduite inspirait cette unanime révérence. Rapidement, on disposa autour de lui les matériaux rassemblés pour le feu. Mais quand les gardes voulurent le clouer au poteau, il dit « Laissez-moi comme je suis. Celui qui m'a donné la force d'affronter ces flammes me donnera aussi, même sans la précaution de vos clous, de rester immobile sur le bûcher. » Ils ne le clouèrent donc pas et se bornèrent à le lier. Les mains derrière le dos, assis et attachés, il ressemblait à un bélier magnifique pris dans un grand troupeau pour être offert en sacrifice à Dieu et à lui seul destiné. Alors il leva les yeux au ciel et dit « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, ton Fils béni et bien-aimé, à qui nous devons de te connaître, Dieu des anges, des puissances, de toute la création et du peuple entier des justes qui vivent sous ton regard, je te bénis parce que tu m'as jugé digne de ce jour et de cette heure, et que tu me permets de porter mes lèvres à la coupe de ton Christ pour ressusciter à la vie éternelle de l'âme et du corps dans l'incorruptibilité de l'Esprit-Saint. Accueille-moi parmi eux devant ta face aujourd'hui, que mon sacrifice te soit agréable et onctueux, en même temps que conforme au dessein que tu as conçu, préparé et accompli. Toi qui ne connais pas le mensonge, ô Dieu de vérité, je te loue de toutes tes grâces, je te bénis, je te glorifie au nom du grand prêtre éternel et céleste, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lequel la gloire soit à toi comme à lui et à l'Esprit-Saint, aujourd'hui et dans les siècles futurs. Amen. Alors, vous voyez, c'est là qu'on sent que ça a été un peu réécrit, hein, parce que j'imagine que c'était difficile à un témoin d'abord d'entendre ce qu'il dit, et puis de tout retranscrire comme ça par cœur, hein. Quand il eut prononcé cet amen qui achevait sa prière, les valets allumèrent le feu. Une gerbe immense s'éleva et nous fûmes les témoins d'un spectacle extraordinaire qui ne fut donné à voir qu'à ceux qui avaient été choisis pour ensuite faire connaître ces événements. La flamme s'arrondit. Semblable à la voilure d'un navire que gonfle le vent, elle entoura comme d'un rempart le corps du martyr. Ce n'était plus une chair qui brûle, c'était un pain que l'on dore. C'était un or et un argent incandescent dans le creuset, et nous respirions un parfum aussi capiteux qu'une bouffée d'encens ou quelques aromates de prix. Donc vous voyez, l'idée, c'est que lui qui a été évêque, donc qui était le sacrificateur par excellence, devient en même temps la victime du sacrifice. Hein. Lui qui consacrait le pain devient lui-même le pain qui va être offert, en quelque sorte. Donc il y a... Et autrement dit, en faisant ça, le prêtre de la Nouvelle Alliance devient semblable au Christ qui est à la fois prêtre et victime, qui est à la fois l'agneau, le bélier, si vous voulez, l'agneau, le pain, et voilà, le sacrifice. Donc là, on voit qu'il y a une visée théologique à travers ce qu'il dit. À la fin, voyant que le feu ne pouvait consumer son corps, les scélérats ordonnèrent au bourreau de l'achever d'un coup de poignard. Il s'exécuta. Un flot de sang jaillit de la plaie et éteignit le feu. Toute la foule s'étonna de la grande différence qui sépare les croyants des élus. L'admirable Polycarpe était l'un de ces élus, maître de notre temps, apôtre, prophète, évêque de l'Église catholique de Smyrne. Toute parole sortie de sa bouche s'est vérifiée et se vérifiera. Le diable, le jaloux, l'ennemi de la race des justes, voyant la grandeur de son martyr, l'irréprochable conduite qui fut la sienne dès son enfance, la couronne d'incorruptibilité posée sur son front et la récompense incontestée qu'il remporta, essaya de nous empêcher de retirer son corps que beaucoup étaient en effet impatients de reprendre, ne fût-ce que pour toucher cette chair sacrée. Il souffla donc à Nicétès, le père d'Hérode et le frère d'Alcée, de persuader le magistrat de ne pas rendre le corps. Car, disait-il, ils vont oublier leur crucifié pour se mettre à adorer celui-ci. Vous voyez l'idée. Les Juifs appuyaient frénétiquement ces discours. Ils nous avaient épiés quand nous avions tenté de le reprendre sur le bûcher. Ils ne savaient pas que jamais nous ne pourrons renoncer au Christ qui a souffert pour le salut du monde entier, immolant son innocence à nos péchés. Nous n'en adorerons jamais un autre. Nous vénérons le Christ parce qu'il est le Fils de Dieu et nous aimons les martyrs parce qu'ils sont les disciples et les imitateurs du Seigneur. Leur ferveur incomparable envers leur roi et leur maître mérite bien cet hommage. Puissions-nous aussi être leurs compagnons et leurs condisciples. Quand il vit la querelle que déchaînaient les Juifs, le centurion exposa le corps au milieu de la place, comme c'est l'usage, et le fit brûler. C'est ainsi que nous revînmes plus tard recueillir les cendres que nous jugions plus précieuses que des pierreries et qui nous étaient plus chères que de l'or. Nous les déposâmes en un lieu de notre choix. C'est là que le Seigneur nous donnera, autant que cela se pourra, de nous réunir dans la joie et la fête pour y célébrer l'anniversaire de son martyr et pour nous souvenir de ceux qui ont combattu avec lui, avant lui, fortifiant et épaulant ceux qu'ils feront après. Donc vous voyez, là vous avez l'origine des messes quotidiennes. C'était... Les chrétiens se réunissaient sur la tombe, sur la confession, comme on disait, le lieu où le martyr avait confessé sa foi, où il avait été, les cendres se retrouvaient, les restes, et on célébrait l'Eucharistie. Et les martyrs se multipliant, les Eucharisties se multipliaient aussi au fil des jours. Telle est l'histoire du bienheureux Polycarpe. Il fut le 12e d'entre nos frères de Philadelphie à souffrir à Smyrne. Son souvenir reste plus vivant que tous les autres et il est le seul dont les païens chantent partout les louanges. Il fut un maître prestigieux, un martyr hors pair, dont tous aimeraient imiter la passion, si fidèle à l'évangile du Christ. Son courage a eu raison d'un magistrat unique et lui a mérité la couronne d'incorruptibilité. Il partage désormais la joie des apôtres et de tous les justes. Il glorifie Dieu le Père Tout-Puissant et bénit notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de nos vies et guide de nos corps, le pasteur de l'Église catholique répandue dans le monde. Vous voyez que par contre, on ne parle pas trop du Saint-Esprit à cette époque. Vous désiriez avoir un rapport détaillé de ces événements. Nous nous bornons ici au récit succinct qu'en a fait notre frère Marcion. Alors, Marcion, ce n'est pas le mauvais. Quand vous aurez lu cette lettre, transmettez-la de proche en proche à nos frères, afin que aussi rendent gloire au Seigneur qui choisit ses élus parmi ses serviteurs. À celui qui, par sa grâce et sa bonté, a le pouvoir de nous conduire tous à son royaume éternel, par son Fils unique Jésus-Christ, gloire, honneur, puissance, grandeur dans les siècles. Saluez tous les chrétiens, ceux qui sont avec nous vous envoient leurs salutations, j'ajoute les miennes et celles d'Évariste le scribe, ainsi que de sa famille. Donc voilà, encore un récit de martyr.